Leçon 1 bis. Res repetita placent. C'est-à-dire les choses répétées plaisent. Vous voyez vis repetita placent, pardon. Parce que res, c'est, ça serait du féminin, alors que repetita, en fait, c'est du neutre au pluriel. Bis repetita, ce qui est répété deux fois, plaît. Nous allons lire lentement pour la prononciation l'Ave Maria que je vous ai donnée. Ensemble. Mais c'est ensemble et après que j'ai parlé. Ave Maria gratia plena. Répétez.
Ave Maria gratia plena.
Dominus tecum.
Dominus tecum.
Vous avez remarqué qu'on n'a pas dit gratia. En français, on aurait dit gratia. Vous avez remarqué que tous les « et » se prononcent « et ». C'est pas Ave Maria gratia plena, hein, c'est Ave Maria gratia plena. Dominus tecum, donc voilà. Dominus tecum. Benedicta, donc le et, le e, c'est un et tout le temps. Tu, voilà. Ça donnait tu en français. Ça s'écrit T-U en latin, et puis, de manière un peu différente, T-U en français. Vous voyez ? Donc, vous comprenez bien que nous avons des racines particulièrement latines. In mulieribus. Donc, on applique bien la règle. U, c'est ou, et E, c'est E. Mulieribus. Et benedictus fructus. Donc, U, c'est ou. Ventris tui. Alors, on n'a pas dit ventris. Parce que, quand vous avez les voyelles, se prononcent, séparées, enfin, dans une... Le mot diphtongue n'est pas juste ici.
On ne
nasalise pas le A et le E. Voyez, vent, c'est ventris. Alors, ventris, non, ventris. Tui, Jesus. Le J n'existe pas en latin, mais avec le latin, des siècles, on a mis un J, mais sinon, c'est un I. Donc, c'est un I mouillé, le J. Vous voyez ? Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, ou, hein, nunc, de la même façon, on ne nasalise pas, donc c'est pas nunc, voyez, et in ora, mortis, nostre, et donc dans la prononciation restituée qui a été faite par des linguistes éminents, mais qui, après des siècles de prononciation italienne, romaine, ont voulu, si vous voulez, mettre la zizanie dans la prononciation pour qu'on ne s'entende plus, pour qu'on ne suive plus les mêmes règles, pour qu'on se dispute, tout ça. Certains peut-être de bonne foi, d'autres, je pense, de mauvaise foi, mais parce que j'ai des trucs mal tournés. Et donc, voilà, ce n'est pas nostrae, c'est nostré. Les diphtongues se prononcent en un seul son. Amen. Donc on va le dire ensemble lentement. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen, c'est l'hébreu. Hein, ça veut dire je suis d'accord. Ainsi soit-il, mais c'est plutôt voilà. Amen de gloire. Youpi. Hein, voilà. Et donc ici, on recommence. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Alors maintenant, regardons ces phrases et confrontons-nous aux règles de base que nous allons étudier, réétudier et ré-ré-étudier sur le verbe, le sujet et le complément. Notion fondamentale de la langue. Lorsqu'on parle, on peut éventuellement conjuguer le verbe ou ne pas le conjuguer. Manger. Moi, manger. Voilà. Et donc, on vous présente une baguette et on dit « moi, manger, pain ». Voilà. Mais en règle générale, le sujet, le verbe et le complément, c'est un minimum. Vous pouvez éventuellement dire « pain, pain ». Vous voyez ? On ne sait pas si vous voulez le manger ou si vous le désignez ou si vous voulez le donner à quelqu'un. Donc il faut le verbe, le sujet et le complément. Vous voyez ? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un vous dit « prends-le ». Comme ça, de but en blanc. Et vous avez une pièce, cette personne arrive dans la pièce et dit « prends-le ». Et là, vous avez plusieurs objets. Alors, vous essayez de voir les objets qui sont féminins par rapport au masculin, pour vous faire un tri. Mais si vous voulez, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et donc, le verbe sujet-complément, c'est quand vous êtes fatigué, que quelqu'un vous dit les choses de manière elliptique, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire, donc il vous dit, est-ce que vous pouvez mettre un verbe, un sujet et un complément, voilà, pour que je puisse saisir ce que vous voulez me dire. Eh bien, en latin, c'est la même chose. En français, c'est la même chose. Sauf que l'ordre des mots n'est pas celui du français. En français, on fait sujet, verbe, complément. Je demande la lune. On est là, on dit oui, bon, ça va être difficile pour la décrocher, tout ça. C'est moi, et je la demande, et je veux la lune. Oui. Et donc, en latin, on dira « lune demande ». L'article n'est pas... Alors, « Pierrot demande la lune ». En latin, on dira « Pierrot, la lune demande ». L'ordre des mots est différent. Mais on peut encore le comprendre. Seulement, quand vous avez l'ordre des mots qui est totalement varié, ça devient plus difficile. On va dire « roi, couronne, belle est ». On comprend encore. C'est l'ordre des mots latins. Hein. La couronne du roi est belle. Seulement, il n'y a pas beaucoup de conjonction de coordination, de subordination. Comment s'appelle la couronne du roi, du, c'est une préposition, et donc, ou encore c'est de le, hein, c'est la préposition plus un article. Ça, ça n'existe pas en latin. Alors, le latin, puisqu'il a un ordre des mots très particulier, a une cause de cet ordre des mots particulier. Par exemple, je vois les roses qui ornent l'autel. Et donc, on dira l'autel orne les roses qui voient. C'est Et donc, il faut vous accrocher à la personne, au masculin, au féminin, au pluriel, au singulier. Alors ici, nous avons l'exemple du « Je vous salue Marie ». « Ave Maria »,« Ave », c'est une apostrophe, c'est « salut ». En latin, il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a le pluriel est pour plusieurs personnes, le singulier est pour une seule personne. Et suivant mon exemple favori, lorsque les gladiateurs allaient mourir, ils disaient « Ave César, moritorit et salutant ». Donc, « Ave, salut César, ceux qui vont mourir te saluent ». Ils disaient « Hé mon pote, salut, on va mourir !» Voilà. Et donc, là, voyez-vous, à la fin du combat, César, dans ces cas-là, il fait ça systématiquement, vous voyez. Mais c'est dans le ton de la voix qu'on fait la différence entre le singulier et le pluriel et la politesse, le « vous » de politesse. Donc vous verrez que dans toutes les prières, on singularise Dieu, qui est unique, on singularise la Vierge Marie, et un latin n'aurait jamais compris qu'on dise « vous » à une personne seule. Vous voyez ? Donc c'est le tutoiement. Sauf que dans des langues, mais comme dans l'anglais, vous avez des formules de politesse ou de majesté qui sont très particulières. Vous voyez ? Eh bien en français, on a eu l'habitude pendant un certain temps d'utiliser le vouvoiement. Mais en latin, il n'y a pas de vouvoiement, c'est dans le ton de la voix. C'est dans la manière dont on parle qu'on respecte la personne qui est seule. Mais, si vous voulez, les gens ne tutoyaient pas César, ils parlaient à César parce qu'il était seul en lui disant « tu ». C'est pour ça que on va dire « Salut Marie, Maria, gratia plena ». Alors là déjà, « pleine », on peut comprendre. « Grâce pleine », en français, ça ne veut rien dire. Donc il y a une particularité ici dans le latin dès ce moment-là. En fait, c'est « pleine avec la grâce », « remplie de grâce ». Donc ça veut dire qu'il y a une fonction grammaticale qui est différente. « Marie », apostrophée, « plena », posée à côté du mot qui est appelé, du nom appelé, c'est un adjectif apposé, posé à côté. Mais gratia, ici, c'est un complément circonstanciel de manière d'être plein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà la particularité du latin. La particularité du latin, c'est que la fin des mots désigne une fonction grammaticale. Mais que la fin des mots, parfois, est identique et avec des fonctions grammaticales différentes. Sujet, verbe, complément circonstanciel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Mais on verra ensuite par la grammaire plus explicite. Mais je commence par le « Je vous salue Marie », d'abord parce que c'est agréable de commencer par une prière. On est censé cette année arriver à décrypter des prières usuelles avec une grammaire simple. Salut Marie, pleine de grâce. Alors vous voyez qu'il y a un accent sur le gratia. Tout à l'heure je plaisantais en disant qu'on se moque complètement des accents en latin, mais de fait, ça peut aider, mais ça n'aidera pas tout le temps. Et en plus, si on fait un jour de la poésie latine, si on arrive à, je ne sais pas, comment dire, un poète latin... Est-ce que Tite-Live a fait des... Non, Tite-Live, c'est un historien. Non, Virgile, voilà, si on fait du Virgile, Horace, ben on s'amusera. Mais ça sera d'ici 10-15 ans, lorsque, après la Troisième Guerre mondiale, dans une petite caverne avec un panneau photovoltaïque qui nous mettra de la lumière pendant que vous aurez des drones qui passeront pour exterminer les derniers chrétiens. Donc, Ave Maria, gratia plena, c'est « Je vous salue, pleine de grâce, avec la grâce. » Dominus tecum. Ah, là, il y a une particularité du latin, c'est qu'on inverse les mots avec cum, qui est une conjonction de coordination. Vous voyez, avec. Je crois, hein, c'est une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Pourtant, c'est pas, avec n'est pas dans mais où est donc ornicar? Avec, c'est une préposition, alors. Donc, cum te, c'est avec toi. Bon. Alors, vous allez me dire, donc, le latin est différent du français, c'est te. Oui, mais il te voit. C'est te. On est bien d'accord? Dominus tecum. Alors là, c'est pas très net. C'est le Seigneur. Et là, le verbe être n'est pas exprimé. En français, on aurait mis là où je l'ai mis. En latin, on aurait mis Dominus tecum est. Le Seigneur est avec toi. Mais le te a donné en français te. Mais ici, ça se traduit par toi. Vous voyez, c'est un pronom personnel qui ici, avec la préposition avec, se traduit en français avec toi. Bon, essayons de trouver à nouveau des exemples. Ah ah, vous voyez que benedicta tu in mulieribus. Là, on commence à avoir un ordre latin, ou là, plutôt poétique, parce que si c'était vraiment le latin, ça serait tu in mulieribus benedicta es. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, béni, parmi les femmes, est. Ah, moi, Tarzan, toi, Jeanne, ben eux, ils sont le latin. Si vous voulez, quand vous suivez l'ordre des mots, vous dites, mais c'est de la prose de Monsieur Jourdain. Molière, c'est en fait, à force de, justement, au XVIIe siècle, de marquise de Vaubezieux, mourir d'amour, mourir d'amour, je. Voilà. Et donc ici, béni tu es parmi les femmes. Donc, si on retrouve l'ordre français, c'est tu est béni, in mulieribus, in plus un complément circonstanciel de lieu abstrait, hein, parmi les femmes. Ça se comprend. Et benedictus es fructus ventris tui Jesus. Ah, intéressant comme ordre des fois. Vous connaissez bien l'ordre français. Et Jésus, virgule, apposé à Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Et là, c'est « et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus ». Très bien. Donc, Jésus et fruit ont la même fonction grammaticale. C'est le sujet. Le verbe, c'est le verbe être. L'attribut du sujet, c'est béni. Et le complément du nom, c'est fructus tui, de ton ventre. Donc si on lit le latin tel quel, on dit « et béni, fruit, ventre, ton, Jésus ». Vous voyez ? C'est... Or, ce n'est pas ça, justement. Le latin vous dit de manière plus distinguée cela. Donc ça veut dire que « ventris tui » a une forme qui dit le complément du nom. De ton ventre. Et « tui », en effet, est un adjectif possessif de ventre. Vous voyez ? Et donc, est le complément du nom de « fruit ». Voilà. Sancta Maria Mater Dei. Alors, on est dans l'apostrophe. Donc là, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément, c'est « Oh, Alfred !» Vous voyez ?« Paul !» Je suis ici, Paul !» Vous voyez ? C'est une apostrophe. Donc on interpelle. Et dans la liturgie et dans la prière, il y a beaucoup d'apostrophes. Beaucoup. On dit en latin, on utilise la voix pour appeler la personne. C'est le vocatif. Vox, la voix. Vocis, vous voyez. ce qui est vocal. Le vocatif, c'est « Oh !» Et on apostrophe la personne. « Sancta Maria, Sainte Marie !» Et là, « Mater Dei ». Donc en français, on dit « Sainte Marie, Mère Dieu ». C'est un peu bizarre. « Mère », que ça soit apposé à Sainte Marie, on comprend. Mais « Mère Dieu », c'est bizarre. Par contre, si c'est une fonction grammaticale qui dit un complément du nom, alors, lorsqu'on connaîtra la grammaire latine, on traduira, quand on verra le mot « Dei », on saura que ça veut dire « de Dieu ». Mais si on interpelle Dieu, « Deus meus, Deus meus »,« Quare me repulisti », pourquoi m'as-tu rejeté ?« Mon Dieu, mon Dieu !» Et, eh bien, c'est « Deus », c'est l'apostrophe. Ça peut être aussi le sujet, mais ça peut être l'apostrophe. Et en latin, tout ce qui est sujet, c'est un nom. Les noms. Le mot qui fait l'action. C'est le sujet. Et on l'appelle le nominatif. Vous voyez. C'est le sujet, c'est celui qui agit, qui est à l'origine de l'action. C'est le nominatif. Mais le nominatif et le vocatif sont très proches. Quand vous dites « Sainte Marie, mon Dieu !» Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de verbe. Mais c'est quelque chose de principal, comme un sujet. C'est ce qui fait que très souvent, le sujet, comme celui qui est interpellé, aura quand même la même forme. Mais pas toujours, histoire de vous embêter quand même. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Prie pour nous pécheurs. Vous remarquerez que les Français qui en rajoutent toujours, il n'y a pas pauvre pécheur. Hein? Voilà. Pauvre, pauperis peccatoribus, ça n'existe pas. Vous voyez? Mais nous, comme on est particulièrement humble, voilà, donc on rajoute pauvre pécheur. Mais vous demandez en italien, en allemand, en anglais, il y a « Priez pour nous, pécheurs ». Parce qu'ils traduisent le latin directement. « Ora », c'est « prie »,« prier », c'est de l'impératif. « Pro », préposition, « pour nous ». Et donc ici, c'est un complément circonstanciel. Comment on prie ? Pour nous, pour eux, pour elle, pour lui. Et là, ça va avoir une forme particulière. Et nobis et peccatoribus auront la même fonction grammaticale, complément circonstanciel qui précise pour qui on prie. Nunc, ça c'est un adverbe, comme en français il y a des adverbes en latin. Ça veut dire maintenant. Et, ça veut dire et, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre le latin et le français. Vous voyez ? Mais ça ne se prononce pas de la même manière. C'est et. Vous voyez ? Voilà. In. Hein ? C'est les Anglais qui ont gardé in. Pourquoi ? Parce que pendant 400 ans, les Romains ont occupé l'Angleterre, sauf l'Écosse. Parce que les Pictes étaient des fous furieux et les soldats romains n'ont jamais pu envahir l'Écosse. Et ils en avaient tellement marre qu'ils ont fait un mur. Le mur d'Adrien, et ce mur était tellement solide qu'il en reste de grands morceaux. Le mur d'Adrien, si vous allez de la Grande-Bretagne à l'Écosse, vous verrez, il y a des gros morceaux du mur d'Adrien. Bon, ils ont été utilisés pour des maisons ou autres, mais je peux vous assurer qu'à certains moments, vous avez beaucoup de mètres du mur d'Adrien. C'est comme la grande muraille de Chine. On peut même distinguer le mur d'Adrien par satellite à certains endroits. Vous voyez ? Surtout lorsque vous avez des satellites qui voient les bouleversements du sol. Vous voyez ? Donc c'était vraiment les Romains ne pouvaient plus supporter les Écossais, enfin les Pictes. Ils étaient malades, ils sont comme ça, ils se battent, ils mangent de la terre, de l'herbe, je sais pas, des rochers peut-être, enfin ils sont des monstres, voilà. Donc ils sont jamais montés plus haut. Et donc, mais par contre, ils sont restés pendant plus de 400 ans en Angleterre. Donc, être in, c'est être à l'intérieur du mouvement, de la mode. Vous voyez ? Oui. Voilà. Et donc, in, c'est dans. Maintenant et au moment dans aura l'heure, ça donne horaire en français. Mortis nostrae. Alors, si on traduit en ignorant que le latin a des particularités pour dire les choses sans les dire tout en les disant, maintenant et dans heure mort notre. Voilà, on se dit, il manque quelque chose. Et oui, il manque des prépositions, il manque des articles. Mais parce que pour les latins, c'est évident. C'est du génitif. C'est-à-dire que le complément du nom, ce qui accompagne un nom, une personne, c'est son enfant. Vous voyez ? Vous avez Napoléon et son chapeau, son bicorne. C'est son chapeau. Il a engendré son chapeau, le chapeau de Napoléon. Ou c'est le chapeau qui a Napoléon, vous voyez ? Mais le complément du nom, pour les latins, ils ont utilisé comme terme le génitif. Vous voyez ? Mais on comprend plus la fille de Jeanne. Ah oui, mais c'est du génitif. Elle est engendrée par Jeanne. Mais là, quand on vous dit l'heure de notre mort, mais c'est du génitif, c'est un complément du nom heure. C'est quelle heure ? C'est l'heure à qui ? L'heure de notre mort. Ah, voilà. Mais si vous voulez, qui est le possesseur de cette heure ? La mort. La mort bretonne, là, comment il s'appelle le bonhomme qui arrive avec une charrette, là. Voilà. Non. C'est notre mort, le moment où Dieu nous appelle.
L'encou.
Voilà. Donc, c'est pas l'encou, c'est l'heure de notre mort. La mort n'existe pas. C'est l'appel de Dieu. C'est le moment où l'âme sort du corps, la mort. C'est pas une personne, c'est pas trois aveugles avec des ciseaux face à des fils et qui font clac 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 clac, hein, ce sont les parques dans la mythologie gréco-romaine. Ici, c'est l'heure de notre mort. Au moment où nous sommes appelés par Dieu, jugés par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on soit chrétien, bouddhiste, hindou, tout ce que vous voulez, c'est Jésus qui nous juge. Avec la Vierge Marie, si d'une manière ou d'une autre, sa présence a été souhaitée, a été voulue, et je ne sais pas, peut-être qu'il y a certaines personnes, même qui n'étaient pas chrétiennes, mais qui ont eu une vie très intègre et qui ont saisi dans l'ignorance qu'ils avaient de la vérité pleine et entière sur Dieu, et ben une très grande humilité et bonté d'âme, mais la Vierge Marie peut très bien être là à leur jugement particulier. Je sais pas, une sainte femme. Un homme, c'est plus rare, n'est-ce pas ? Mais, vous voyez, c'est... Et l'ange gardien, toujours. L'ange gardien, toujours présent, au moment de notre mort. Et puis, il y a Saint-Michel, mais lui, il est un peu neutre. Il est là, et il fait, alors... Moi, pas savoir ce qu'il a choisi, Seigneur. Voilà. Et là, vous connaissez votre choix... Et c'est avant de mourir. Hein. Il y a une hérésie qui s'appelle l'illumination. Après la mort, vous avez une deuxième chance, hein, au tirage et au grattage. Donc vous êtes là, vous avez le libre arbitre avant de mourir. Et là, tout d'un coup, vous avez le grattage. Et là, vous grappillez un deuxième salut avec Jésus qui vous fait du kaléidoscope. Cling, 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 vous voyez ? Et là, vous êtes tellement ébahi par la gentillesse et la bonté de Jésus que vous vous convertissez après votre mort. Seulement, alors, ça veut dire que la liberté, ça sert à rien. La vie sur terre, nos choix libres, justement, ne sert à rien. Alors là, c'est embêtant. Hein. Plus de liberté, on devient des chats, des moustiques, des mythes. Vous voyez, on est là, et puis on meurt quand quelqu'un nous écrase. Mais c'est pas cela. Donc il n'y a pas d'élimination après la mort. Après la mort, on est là, on voit Jésus, et on a déjà choisi si on aime Dieu, l'invisible, notre Père, notre Créateur, et notre prochain. Alors en latin, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça va donner la leçon une. Alors maintenant, vous allez faire de l'archivage.